Pour parler des interfaces de logiciels libres, nous avons souhaité recevoir une designer qui a une forte sensibilité UX, c'est pas automatique, et qui justement aime goûter de tout, en logiciel comme en service en ligne. Et il se trouve que notre invitée avait déjà participé à CPU indirectement lors d'un segment, lors d'une des crypto-parties que nous avions précédemment diffusées. Nous recevons Maïtane Lenoir, alias Maïwan, UX designer freelance, balado travailleuse, déjà participante à cette émission donc via le site Crypto-Party et accueillante bénévole de chats en recherche de foyer. Je précise, c'est les chats qui cherchent un foyer et pas elle. Si vous êtes intéressé, quand même, on fera passer le message.
CPU carré petit utile.
Maïtane, quel a été ton premier contact avec un ordinateur ?
Quand j'étais gamine, dans ma chambre que je partageais avec ma sœur, on avait un Windows 98, je crois, et on avait des jeux dessus, et du coup, c'était moi la responsable de l'ordinateur.
Parce que tu étais plus vieille ?
Ouais, et puis de toute façon, au fur et à mesure du temps, c'était moi qui avais une plus forte sensibilité à l'informatique par rapport à ma sœur. Donc moi, je tapais sur les touches pour faire avancer le personnage, et ma sœur, elle regardait.
D'accord. Quel système d'exploitation as-tu connu ? Donc Windows, mais je crois qu'actuellement, d'ailleurs, tu es sur Mac ?
Ouais. J'ai fait du Windows 98 et après j'ai fait plusieurs évolutions et j'ai eu un Mac ensuite et j'ai jamais été sous Linux.
Ça arrive. Il y a pire comme tard, il y en a qui n'ont même pas connu l'Amiga. Lequel de ces systèmes que tu as, sur lesquels tu as travaillé t'a semblé le plus léché, le plus fini ?
Est-ce qu'on parle au niveau du graphisme ou au niveau du design ?
C'est deux critères qui sont effectivement intéressants que je n'avais pas prévu, mais tu peux en fait répondre aux deux.
J'ai trouvé que le plus fonctionnel, c'était le Windows XP, quand je l'ai vu, parce qu'il me semblait assez pratique, assez fonctionnellement utilisable, mais il n'était pas très beau. Et par contre,
t'as pas aimé PlaySchool, toi.
Et après, j'ai été confrontée à Windows Vista, qui m'a semblé très beau et tout à fait inutilisable. Et donc, du coup, j'ai tout à fait saisi la différence entre avoir quelque chose de fonctionnel et quelque chose de joli, et que c'était pas forcément lié.
Ce qui répond un petit peu à l'intro que j'ai fait tout à l'heure, ce qui est parfait. Donc, même si tu n'as pas connu Linux, tu as commencé à goûter au logiciel libre. Mm-hmm. Comment tu es venu? Marre de craquer les numéros de licence d'Internet Explorer ?
En fait, il y a deux vraies réponses à ça. C'est que j'étais utilisatrice de logiciels libres, mais sans savoir que c'était des logiciels libres. Il y a VLC qui correspond tout à fait à cette définition-là, parce que j'utilisais VLC parce que c'était hyper pratique et que j'ai jamais été déçue de l'utilisation de ce logiciel. Et j'ai découvert la notion de logiciel libre beaucoup plus tard par les valeurs, parce que je suivais des personnes qui étaient militantes sur Twitter et du coup qui m'ont initiée à qu'est-ce que c'était. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner et à basculer du côté obscur.
Ouais, de la ligne de commande. Et en fait, qu'est-ce qui t'a plus qu'intéressé, motivé à t'intéresser en fait aux interfaces et à leurs impacts fonctionnels ?
Et c'est un truc de valeur qui est que moi j'aime faire des choses utilisables par les personnes, leur faciliter la vie. Mmh. Et donc, du coup, faire des interfaces qui sont fonctionnelles et qui améliorent la vie des personnes, alors qu'on peut faire des interfaces qui leur pourrissent la vie, ça m'intéresse de faire basculer l'interface d'un côté plutôt que de l'autre.
Vers le DAC pattern ?
Non, pas du tout. Non, non, justement, pour leur faciliter la vie, pour faire des choses chouettes.
D'accord. Quelle a été l'interface qui t'a été pour toi la plus mémorable positivement ? Au final, pas forcément sur l'OS, ça peut être sur un logiciel ou ça peut être sur un service en ligne.
Alors un service en ligne qui m'a beaucoup marqué. Est-ce que j'aimerais bien m'extraire de l'interface pour parler juste de l'expérience. C'est un service en ligne qui s'appelait Capitaine Train, qui s'appelle Trainline, qui
oui, redoutable.
Au niveau de l'expérience utilisateur, qui avait un point d'orgue à avoir une très bonne expérience utilisateur. Et un jour, j'étais en retard pour prendre mon train. Et j'étais très stressée dans la voiture de la personne qui m'emmenait parce que j'avais peur de le rater. Et au moment où je me suis dit, il faudrait quand même que je me renseigne pour voir si je connais le quai et si je peux gagner du temps, j'ai déverrouillé mon téléphone et j'avais une grande notification qui me donnait le numéro du quai, le fait que mon train avait du retard et ma place. Et ça m'a instantanément soulagée. Et c'était un sentiment extrêmement positif. Et depuis, c'est ancré à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai une relation particulière avec ce service parce qu'il m'a apporté beaucoup de positif à un moment précis où j'avais besoin d'aide.
Oui, parce que Captain Train ne faisait qu'une chose, mais il le faisait super bien. Et face à eux, il y avait Voyage SNCF, dont l'expérience était absolument hallucinante. Tellement que c'était inutilisable, quoi. Et puis, il y avait aussi beaucoup l'humour, d'ailleurs, de Captain Train qui jouait là-dessus.
Oui, ils font attention à avoir une expérience utilisateur où ils prennent soin des personnes, de leur parler de façon... plus sympathique, tandis que Voyage SNCF a un ton plus formel. Et du coup, c'est une position différente, ça plaît ou ça déplaît, mais la cible de Capitaine Train était plus concentrée là-dessus. Et avec moi, en tout cas, ça fonctionne. Et vu la progression qu'ils ont eue, je pense que ça fonctionne avec pas mal de personnes qui étaient assez déprimées d'utiliser Voyage SNCF.
D'accord. On va écarter Voyage SNCF pour la question suivante, qui est quelle est l'expérience la plus négative que tu aies jamais vécue, qui t'a renversé la table, pleuré, énervé, fait entrer dans le militantisme.
Et c'est pas du tout un service en ligne, c'est quelque chose qui a été obligatoire pour moi quand j'ai créé mon auto-entreprise. Il faut passer par un formulaire fait par l'État et on a le droit à une espèce de succession de mauvaises expériences parce que le logiciel est vieux.
c'est rien, c'est un auto-entrepreneur qui a voulu ouvrir la fiche CERFA en question.
Parce que le formulaire est vieux, parce que la façon de communiquer les erreurs n'est pas évidente, parce que dès que tu fais une erreur, il efface tout, parce qu'il te demande des choses et tu ne sais pas ce qu'il te demande. Et tout s'accumuler a provoqué une expérience extrêmement frustrante, surtout que j'étais obligée de passer par là pour pouvoir ouvrir mon auto-entreprise. Et ça...
C'était il y a 2 ans en plus. Hein.
C'est ça.
Par curiosité, t'es allé voir si ça a changé ?
J'ai des amis qui sont en train d'ouvrir leur auto-entreprise et qui, sans que je leur en ai parlé, mettent les screens sur Mastodon en disant « C'est scandaleux quand même ce formulaire, qu'est-ce qui se passe ?» Et je me retrouve tellement dans ce qu'ils sont en train de vivre. Il n'y a pas d'amélioration, mais le formulaire date des années 90 à mon avis.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Maïwenn, web designer et UX designer freelance. Alors là, maintenant, la question qui est vraiment compliquée à répondre, mais tu peux prendre ton temps. Au besoin, on mettra la version complète sur le site web. Quelle est la différence entre beau et utilisable ?
On va boire un coup, on revient tout à l'heure, plus tard.
Non, je reviens en régie.
Vous m'avez trop pris au dépourvu.
Vas-y.
Non, en vrai, c'est une question facile en plus. C'est parce que, alors, ce qui est beau, c'est quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de l'envie, donc ce qui donne envie, qui attire. Et quelque chose qui est utilisable, c'est quelque chose qui remplit sa fonction. Et donc, c'est quand j'ai un objectif, et ben, ça m'aide à, si c'est utilisable, ça m'aide à aller jusqu'à mon objectif.
Penses-tu que les interfaces arrivent vraiment à concilier les deux ? Est-ce qu'il y en a vraiment qui arrivent à faire les deux ?
Je pense que c'est possible et que c'est pas difficile à faire. Par contre, il faut que le fait de faire les choses, des choses belles, ça serve l'utilisabilité. Et que ça peut marcher que dans ce sens-là. Et donc, du coup, qu'il faut penser d'abord à comment faire quelque chose d'utilisable et que la beauté, comme c'est, en plus, c'est subjectif, ça dépend des modes, ça dépend du temps et ça dépend de beaucoup de choses annexes. C'est complètement secondaire.
Et est-ce que tu peux donner un exemple d'interface qui est beau, mais strictement inutilisable, imbitable ? Tu n'es pas obligé de répondre iTunes.
Alors strictement, je sais pas. Même s'il y a des sites qui sont très beaux, mais qui sont parfaitement, enfin qui sont des sortes d'expériences artistiques et donc qui sont pas utilisables, mais en même temps c'est pas leur but. Mmh. Par contre, ça me fait penser à quand j'ai voulu utiliser Windows 10, je crois, sur l'ordinateur de ma mère, et que par exemple c'était un moment où j'essayais de comprendre comment le système de fenêtres fonctionnait, et c'était très très beau. Mais c'était complètement inutilisable et j'arrivais pas à m'en sortir par rapport à ça.
Ouf, je suis pas le seul. On a commencé à évoquer et préparer le sujet avec toi vraiment depuis un bail hein, quand même. Et tu as écrit entre-temps un article de blog. Pourquoi les logos des logiciels libres sont-ils moches? Quel a été le déclencheur? On t'a encore demandé un logo gratuit?
Pas du tout, c'est un article en réaction.
Très très bon article, hein, on le mettra sur le lien sur la page de l'émission.
C'est un article en réaction... un autre article qui listait X raisons de pourquoi les logiciels libres ont des logos moches et qui me semblait très complaisant dans la façon de traiter le sujet et qui listait des choses du genre c'est marrant d'avoir un logo moche, c'est pas si grave. Et ensuite qui expliquait pourquoi les designers ne contribuaient pas à faire des logos pour les logiciels libres pour des raisons qui sont que le logiciel libre n'a pas d'argent pour payer les designers, ce qui m'a passablement énervée parce que j'estime que il y a pas de raison pour lesquelles les développeurs feraient des choses gracieusement et les designers seraient des personnes qui seraient motivées que par l'argent. Mmh. Et qui concluait en disant bah, « en fait, c'est pas si grave que les logos des logiciels libres soient moches », ce qui m'agace parce que dans ces cas-là, si on se complaît dans le fait de faire des choses qui ne soient pas fonctionnelles, bah, forcément, on ne voit pas où est le problème.
Et donc, on ne comprend pas pourquoi les gens ne vont pas vers le logiciel libre par là même. Quoi. Est-ce que, d'après toi, cette réflexion s'applique sur l'ensemble des problèmes de design que l'on voit ? Comme quoi, bah non, il n'y a pas d'argent, ou bien non, les designers ne veulent pas s'impliquer dans un projet en bénévole.
Ouais, une des raisons qui avait été citée, c'était que dans l'article, c'était les développeurs n'aiment pas voir du monde, et donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de designers qui étaient intégrés dans les équipes. Et je trouve que c'est mal formulé, mais qu'il y a un vrai problème de communautarisme qui est que les développeurs se comprennent bien entre eux et ont des façons de fonctionner similaires, et où c'est compliqué d'ouvrir à d'autres.
Va une soirée Node.js, tu vas voir. Hein.
Ah oui.
Ils s'entendent pas forcément.
Mais c'est plus clivant quand c'est encore d'autres catégories de métiers, et donc pour les designers, c'est vraiment compliqué de s'insérer dans les process de développeurs parce que on leur laisse pas la place et que ça commence à arriver, mais que ça fait quand même beaucoup de temps que il y a de l'incompréhension et que c'est mis du côté des designers, alors que peut-être il faut d'abord regarder dans son pré pour voir où est le problème.
Il y a aussi l'évolution des goûts, tu avais dit. Au bout d'un moment, des fois, les interfaces se démodent. Et d'ailleurs, on l'a vu chez Apple qui était vers le scomorphisme et ensuite bah, Microsoft, au contraire, qui sont allés vers le minimalisme absolu. Donc, l'évolution des goûts et donc du design qui passe de acceptable à démodé. Est-ce que des fois, il faut savoir remettre en cause justement ce qui a été fait à un moment? Et à quel moment on peut le décider que quelque chose ne va plus?
Alors c'est très intéressant que tu parles de l'évolution du skeuomorphisme au flat design, parce que à la base, le skeuomorphisme, donc c'est répliquer le plus fidèlement possible ce qui existe dans la réalité.
Mmh. Avoir une belle poubelle métallique sur le Mac OS X.
Avoir un bouton avec des effets de dégradé pour bien qu'on ait l'impression que ce soit enfonçable. Et ça avait de l'importance au début parce que comme les personnes du grand public n'étaient pas habituées à utiliser les interfaces, il fallait qu'il y ait de la ressemblance avec la réalité pour que la personne puisse identifier, ok, ça c'est un bouton, ça ressemble à un bouton dans la vraie vie, donc du coup je sais que je peux appuyer dessus. Et ça a évolué vers le flat design parce que à force, les personnes ont compris que si jamais c'est un texte entouré d'un rectangle, c'est un bouton. C'est plus la peine de faire des effets de dégradé. Et donc, il y a une évolution comme ça. C'est pas obligatoire. Pour moi, la priorité, c'est que ce soit utilisable. Donc, un bon exemple, c'est VLC, qui, à mon avis, a pas fait une évolution vers le flat design, mais c'est pas grave, parce que c'est mieux parce que c'est plus agréable et ça donne plus envie si jamais l'interface est belle. Mais la priorité, c'est l'utilisabilité. Si c'est utilisable, ça sera utilisé parce que ça dessert les besoins que j'ai.
Et en même temps, on a connu des évolutions majeures, ne serait-ce que sur les 10 dernières années, puisqu'on est passé de l'écran cathodique à la dalle LCD un petit peu partout. Maintenant, on a carrément le mobile, ce qui veut dire qu'on a des interfaces qui sont purement tactiles. Donc, il y a des changements de paradigme, de manière d'interagir même avec les sites, avec les logiciels. Il y a encore des blocages dans certains programmes qui n'ont pas su évoluer. Qui prennent mal en compte justement cette évolution-là. Dans ce que tu as connu, évidemment.
Je dirais oui, forcément, parce que la technologie évolue hyper vite et que si jamais les évolutions ne sont pas faites à temps, le logiciel n'est pas au niveau. L'arrivée du tactile, c'est quelque chose d'assez énorme et ça change beaucoup de paradigmes et même au niveau du design, et donc du coup ça demande de retravailler sur les interfaces, et du coup c'est un peu une double peine parce que ça redemande de faire du travail sur quelque chose qu'on pensait abouti, mais comme c'est de la technologie et que ça fait que évoluer, il faut un peu se résoudre au fait que ça va continuer à
on peut pas aller contre le progrès
ouais.
C'est pas cyclique, on verra pas les beepers.
J'espère.
Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes donc avec Maiwan, donc qui est designer freelance spécialisé UX et pas mal de logiciels libres en fait qui existent sur la plupart des distributions sont des entre guillemets, je vais dire portages de logiciels propriétaires dont l'aspect est souvent bien léché, les logiciels propriétaires en question, mais il n'est pas possible de cloner cette interface complètement. Alors comment peut-on faire? Est-ce qu'on doit vraiment créer quelque chose de totalement différent et se dire non, c'est l'occasion de créer et tant pis si on n'arrive pas à avoir les utilisateurs qui migreront de Photoshop à notre truc.
Je suis assez proche de la position que revendique Framasoft par rapport à ça, donc je m'inspire pas mal de ce qu'ils disent dans leur feuille de route Contributopia, qui en gros est que on n'aura jamais la force de frappe des personnes qui font du logiciel propriétaire, et que du coup la force du logiciel libre, c'est de faire une alternative en profitant des avantages qu'elle a de ne pas vouloir centraliser et de ne pas vouloir enfermer les personnes, et que c'est là que réside sa valeur. Et donc du coup copier pour copier, à mon avis, c'est voué à l'échec de toute façon. Donc autant faire différemment, parce que ça sera une alternative potentiellement plus cool.
Quel serait l'échelon qui sera mieux travaillé pour, donc pas uniquement le monde Linux, mais le logiciel libre en général? Est-ce que c'est le quotidien général, le contact quotidien avec les utilisateurs grand public, ou les ateliers avec les associations locales, comme par exemple Tout Libre?
Pour l'avoir fait plusieurs fois et avoir juste posé dans la même pièce derrière un même ordinateur un développeur de logiciel libre et un utilisateur de son logiciel libre qui lui faisait une démonstration de comment il l'utilisait et de ce qu'il comprenait, on apprend déjà énormément de choses, et du coup c'est pas très compliqué, ça demande pas beaucoup d'organisation et c'est déjà hyper riche, donc ça pourrait être la première étape, ça me semble pas très compliqué à faire.
Et c'est ce qu'on appelle de l'UX d'ailleurs, vraiment pur et dur.
Des tests utilisateurs, oui, c'est une méthode.
Quels sont les obstacles? Ne pas reconnaître qu'il faut savoir déléguer, ou le manque de modestie, comme quoi l'équipe n'est pas totalement géniale, comme le faisait remarquer Eugène fort présentement, juste avant la coupure musicale.
J'ai l'impression que, comme dans beaucoup de choses, le problème revient souvent à la gouvernance du logiciel libre, de comment les décisions sont prises, de qui prend les décisions, et donc de est-ce que le pouvoir est partagé ou pas. Et un designer a souvent pas du tout de pouvoir, parce que comme c'est pas lui qui code les fonctionnalités qu'il met en avant, on peut être retoqué par des développeurs qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit, qui ont pas confiance en notre expertise. Et donc du coup, si la gouvernance est mise à plat d'office et qu'on sait comment sont prises les décisions et qu'elles sont prises de façon collaborative, ça facilite beaucoup les choses. Mais il faut s'être posé la question en avance, et ça c'est pas toujours forcément fait, parce qu'en même temps c'est pas facile.
Et quelles seraient les leçons à prendre pour le logiciel libre par rapport au logiciel propriétaire? Est-ce que finalement c'est le marketing, ou l'écoute, ou le moyen mis justement dans l'internationalisation, que sais-je?
Le logiciel libre s'oppose souvent au logiciel privatif, parce qu'il y a cette notion justement de marketing, comme tu as dit, où le logiciel libre a des valeurs plus pures que ça, et je mets pure entre guillemets, et du coup, on ne va pas jouer le jeu du marketing. et souvent le design est englobé dedans. Et en fait, ça serait, pour moi, ça serait OK de prendre ça en compte, de faire du marketing. Et ça ne veut pas dire mentir aux utilisateurs, ça veut dire faire en sorte de leur faciliter la vie. Donc on est entre communication et marketing, ça dépend si on se place de quel côté de la frontière on se place. Mais ça serait sympa de voir ce qu'il y a de positif dans le modèle des logiciels propriétaires et pas de tout nier en bloc parce que malheureusement ils réussissent mieux que le logiciel libre.
On va prendre un contre-exemple. Élie Slouin, qui est donc un Bordelais qui fait d'excellents guides d'ailleurs sur la qualité des interfaces et tout ça pour réussir justement proprement une interface d'un site, a tweeté à la mi-octobre 2018, donc il y a 15 jours quand on enregistre: je viens d'installer la dernière version de Skype. Mon analyse, ils ont recruté des transfuges de chez Duplo et Fisher-Price et leur ont donné comme brief: faites une IHM, une interface homme-machine, pour des enfants encore plus jeunes et niquez l'ergonomie aux cibles aussi. iTunes y arrive, vous pouvez le faire. Est-ce que tu penses à d'autres logiciels proprio qu'il ne faudrait surtout pas prendre en exemple?
Je pense que visiblement...
C'est sérieux, hein.
Oui. Mais du coup, d'après ce que dit...
Élie, oui.
D'après ce que dit Élie, c'est que l'objectif que dessert Skype n'est plus cohérent avec son objectif à lui. Et donc, à mon avis, ce que Skype essaye de faire, c'est de s'ouvrir au plus grand public et aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. D'où le fait d'avoir une interface plus ludique.
C'était, ils avaient aussi l'idée d'essayer de faire une espèce de réseau social et de market de trucs. Et d'ailleurs, ça, ils l'ont abandonné il y a un mois, justement. Enfin, ils ont annoncé qu'ils ont abandonné, mais ils n'ont pas retiré l'ancienne interface.
Et du coup, c'est difficile pour moi de déconseiller des logiciels parce que ça dépend toujours de dans quel but tu les utilises.
Oui. Ça, à quoi ça la première question qu'on devrait se poser, c'est à quoi ça répond. En fait.
C'est quel est mon besoin et
on ne fait pas un logiciel pour coder, il faut que ça réponde à un problème.
Dans l'idéal. Mais ça dépend. En général, le logiciel libre ne commence pas comme ça. En général, le logiciel libre commence pour desservir un besoin personnel. Et c'est OK. Le problème, c'est quand il veut s'ouvrir à plus d'utilisateurs et qu'il n'y a pas d'adaptations qui sont faites.
D'un autre côté, quand on voit le thème matériel qui a été développé par Google, qui existe aussi bien pour des applications Android que d'ailleurs pour faire du site web, matériel est extrêmement propre. Qu'est-ce qui empêche le monde du libre de l'adopter? Est-ce que c'est la licence ou juste Google, c'est le mal, tout ce qu'ils font, c'est mal?
Je crois que c'est sous licence libre. Donc du coup, il n'y aurait pas de problématique de licence à le réutiliser. Mais je dirais qu'il y a quelque chose de plus éthique dans le fait de pas vouloir... En tout cas, moi, par exemple, je suis frileuse à réutiliser du matériel design parce que c'est très léché, mais dans ces cas-là, je propage la façon de faire de Google, qui n'est pas une façon de faire avec laquelle je suis en accord. Et donc, il faut que je dose entre est-ce que ça vaut le coup de tout refaire de zéro ou est-ce que c'est plus simple de réutiliser le matériel design de Google, sachant que du coup, ça propage ses idées.
Mais d'un autre côté, c'est un environnement dont le vocabulaire graphique, la grammaire de l'interface est déjà comprise d'utilisateur. Donc il y a une marche moins haute à monter justement pour les utilisateurs de l'outil en question.
C'est vrai, mais dans ces cas-là, on ne construit pas d'alternative, on se cale un peu sur le modèle de Google. Donc c'est vraiment toujours une balance à prendre en compte entre le coût que ça a de faire quelque chose de nouveau et la marche que c'est pour l'utilisateur et de à quel point c'est compliqué de l'accompagner. Et réutiliser du matériel design, ça peut être accompagner l'utilisateur.
L'accessibilité, bon, ce n'est pas vraiment le sujet. On a déjà consacré plusieurs émissions, il y en a d'autres qui sont prévues parce que c'est un thème qui est extrêmement large dans le terme de l'utilisabilité. C'est tout un pan qui est absolument fabuleux et extrêmement vaste. Mais quand elle n'est pas là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que des fois, tu te poses la question, ça a été oublié ou ça a été volontairement sacrifié? Voir, est-ce que tu as des exemples justement de cet oubli ou de ce sacrifice?
En design graphique, il y a des façons de faire qui... prennent en compte ou pas les utilisateurs au niveau de l'accessibilité. Je pense au contraste de couleurs, je pense aux tailles de typo, mais de toute façon, la façon dont est conçue l'interface et l'organisation de l'application peuvent prendre en compte ou pas les besoins des utilisateurs qui ont besoin d'accessibilité. Et pour moi, ce n'est pas acceptable le fait de ne pas les prendre en compte parce qu'on parle juste d'inclure des humains ou pas. dans ce qu'on conçoit. Donc ça prend en compte dès le début. Par contre, j'entends qu'il y a beaucoup de contraintes et qu'on n'est pas toujours au courant de tout ce qui se passe. Et donc, c'est une formation à avoir, mais en même temps, c'est un métier d'être designer. Donc, du coup, ça se comprend un petit peu que ça demande du boulot à côté pour se former.
Et surtout de l'expérience. On a déjà expliqué dans cette émission, un logiciel libre peut accepter d'autres contributeurs que des développeurs. Toi-même, est-ce que tu as contribué à du logiciel libre ?
Je suis en train de le faire. En ce moment même, on est en train de bosser sur Framadat, l'alternative à Doodle qu'héberge Framasoft. Et c'est possible parce que on le fait depuis zéro avec des personnes qui m'accompagnent et qui sont disponibles. Et donc, je me sens tout à fait inclus dans les prises de décision. Et donc, ça me permet de faire du super travail. Et ça, c'est vraiment agréable à vivre. Donc, ça me permet de contribuer.
Et quel conseil donnerais-tu à des développeurs logiciels, voire à des responsables de projets, pour qu'ils acceptent des contributeurs type graphiste, designer, UX, ou même des contributeurs à la documentation ?
J'ai plusieurs conseils. Le premier que j'ai, c'est afficher, en gros, sur votre site, une page dans la navigation pour que si jamais... on cherche comment contribuer, on ait un lien rapide d'accès avec une page qui liste les propositions, les demandes, les besoins et une façon facile de vous contacter, ce qui n'est même pas ce qui existe sur les sites. Donc moi, la première fois que j'ai voulu contribuer, j'ai juste écumé des sites et jamais réussi à comprendre comment je pouvais contacter les personnes à part par IRC. IRC IRC, c'est OK si jamais ça vous convient, mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui est plutôt utilisé par les personnes techniques et que donc, moi, avoir accès à un chat mieux mis en forme du genre Mattermost, ça me sécurise plus que de devoir déjà sortir de ma zone de confort rien que pour rentrer en contact avec les personnes. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a l'annoncer, il y a exploser clairement ses besoins, il y a rencontrer les personnes en vrai, il y a poser des annonces sur les réseaux sociaux et il y a montrer qu'on est accueillant et le prouver. Et déjà, ça sera pas mal.
Une séquence Mazo, je t'ai montré justement des projets sur lesquels, puisque l'émission de CPU, il y a plusieurs concepts derrière. Il y a notamment du développement logiciel, notamment le player audio qui a été complètement retravaillé et qui a été déployé d'ailleurs au 1er novembre sur le site. Complètement retravaillé dans le code, mais pas du trop dans le design, puisque c'est pratiquement le même. On t'a donné un lien vers le repo GitHub du projet. Alors vas-y, qu'est-ce que tu as à me dire ? Bon, je sais que j'ai oublié un lien effectivement pour pouvoir me contacter rapidement.
Bah déjà, si tu me fais aller sur le repo GitHub, ça veut dire que tu me fais aller sur une forge logicielle, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille sur un endroit de développeur. Donc ça me...
Ouais, non, il y a un mini site qui est hébergé sur le GitHub.
Mais quand je vois le lien. Ouais. Où il y a écrit GitHub, du coup ça me sécurise pas. Et ensuite quand je le vois, j'ai du mal à le juger quand je connais pas l'utilité parce que moi des players j'en connais plein et je sais pas pourquoi tu l'utilises. Est-ce que tu as fait des tests utilisateurs ?
Oui, quelques-uns. Oui.
Et alors ça a donné quoi ?
Ah ben justement ils étaient contents de pouvoir sauter au chapitre de l'émission et l'un des contributeurs à l'émission CPU à une époque, Gaël Serres, qui est journaliste professionnel, qui a fait des interviews qu'après il a repris, il a vraiment adoré le fait que quand il rouvrait la page le lendemain, il se remette à l'endroit où il était ou qu'il puisse naviguer dedans. Donc de ce côté-là, bon, ouais, satisfaction pour l'instant, mais on a trop peu de retours de ce côté-là pour voir si on fait bien, quoi.
Et du coup, ça me permet de dire que, en fait, moi, mon métier de designer, je ne peux pas le faire si je n'observe pas d'utilisateur. Et donc, du coup, peut-être que ce que tu as fait, c'est du design. En étant derrière les utilisateurs et en voyant comment ils l'utilisaient, parce que je ne peux pas juger, parce que ça dépend du contexte d'utilisation de chacun.
Forcément. Hors sujet, pour ceux qui nous écoutent à la toute première diffusion, donc on est jeudi 15, si je me trompe, novembre 2018. Le Capitole du Libre, édition 2018, c'est ce week-end, 17 et 18 novembre, pardon, à l'ENSET. Quelle conférence aimerais-tu voir en priorité ? Donc, pas forcément d'ailleurs les conférences elles-mêmes, mais au moins les tracks, puisqu'il y a une dizaine de tracks en parallèle.
Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aller voir les tracks qui parlent des enjeux du libre, parce que c'est un peu mon domaine de compétence. Et ensuite, il y a aussi un peu de financement du logiciel libre parce que j'aimerais bien savoir comment est-ce que le logiciel libre peut triompher. Et la question du financement me semble hyper importante. Et le reste du temps, je vais passer au Contrib Atelier de Framasoft, qui est aussi une bonne porte d'entrée pour recruter des nouvelles personnes pour vos projets libres.
Et en même temps, tu vas en profiter pour voir des projets libres qui sont sur place en leur disant « Mais vous ne pouvez pas refaire le logo, il est horrible
!» Je fais à peu près ça. Mais j'accompagne les personnes pour pouvoir faire des tests utilisateurs et je vais faire une conférence aussi. Donc du coup, on va faire.
Donc.
Ah, excuse-moi.
J'attendais ça en fait. Okay. Quelle conférence ?
Designer accueillez-les tous, et donc je vais parler un peu de ce qu'on a dit là tout à l'heure, mais de comment on fait pour faire venir des nouvelles personnes dans son projet libre et notamment des designers.
Ça va être chaud. Je crois qu'il y en a qui vont tomber d'eau.
Moi, je pense que ça va être chouette et qu'on va prendre soin des gens.